On va continuer notre rassemblement. Alors ce matin, c'est assez rare, mais j'avais un sujet, enfin, j'ai un sujet imposé, entre guillemets, qu'on a choisi pour moi. Voilà, je vous explique. En fait, on va avoir des baptêmes bientôt, au mois de début septembre. Et puis les anciens qui, si je ne me trompe pas, ne sont pas là ce matin, je vais leur taper sur les doigts, m'ont dit ça serait vraiment bien si j'avais su... Ah, si, je cherchais un. C'est bien caché. Bon, voilà. Voilà. Non, on a pensé ensemble, c'était aussi mon avis, hein. Ça serait bien d'aborder ce sujet. Simplement, je voudrais pas que tous ceux qui sont déjà baptisés se disent « Zut, pourquoi on est venu ce matin ?» Avec le temps qu'il fait en plus, en tant qu'un truc qu'on connaît déjà, on aurait dû rester à la maison. Je pense que c'est un sujet qui est important pour nous tous, et même qu'on soit baptisé ou pas déjà, c'est important d'y réfléchir. Et on va voir comment ça a des répercussions dans nos vies, en tout cas le sens de cette cérémonie ou de ce mémorial. Tout d'abord, se rappeler, et puis on fait un tout petit historique, puis ça va devenir plus général et plus précis en même temps. Le baptême, c'était quelque chose qui existait à l'époque de Jésus. Jésus l'a pas inventé, dans le sens la pratique de tremper quelqu'un dans l'eau et puis de le ressortir pour symboliser quelque chose dans une religion. Il y a beaucoup de religions qui pratiquaient le baptême, c'est des choses qui existaient. Et on voit d'ailleurs que lorsque Jean-Baptiste le fait, personne n'est étonné. Donc c'est un symbole rituel qui existait déjà, qui se pratiquait, qui se pratique aujourd'hui dans d'autres religions. Et on va voir en quoi, justement, le baptême, comme il est décrit dans la Bible, est spécifique et a un sens particulier. Et puis, l'autre chose de base à se rappeler ou à savoir, c'est que bon, on a gardé ce... Je ne sais pas pourquoi, dans notre tradition chrétienne, là, je ne parle pas juste du monde évangélique, hein, en général, hein, il y a certains mots, on les a gardés en grec, puis on les a juste un peu transcrits. Et du coup, c'est devenu des mots qui ont l'air un peu magiques, quoi. Il faut savoir que le mot baptême... qui vient du verbe grec baptizo, ça veut dire tremper ou immerger quelque chose, hein, plonger quelque chose dans autre chose. C'est-à-dire que dans le grec courant à l'époque de Jésus, si vous aviez eu la recette pour préparer les homards, on vous aurait dit prenez le homard vivant et baptisez-le dans une marmite d'eau bouillante, hein, plongez-le dans la marmite d'eau bouillante. C'était pas un terme religieux, c'était pas quelque chose de particulier. C'est un verbe qui veut dire immerger quelque chose dans autre chose. Et après, il décrit ce rite qui était de tremper quelqu'un dans l'eau et de le ressortir pour symboliser quelque chose. Et Jean-Baptiste, donc avant que Jésus commence son ministère, a utilisé ce symbole du baptême, mais pas dans le sens du baptême chrétien d'aujourd'hui. Hein, si vous lisez les textes, on voit que dans le livre des Actes, à un moment, Paul rencontre des gens, puis leur dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils disent, du baptême de Jean. Dire, ça, c'est autre chose. Et là, ils vont les baptiser dans le sens biblique du baptême. Donc, Jean, par exemple, utilisait ce symbole-là pour appeler le peuple juif qui s'était éloigné de Dieu à revenir à lui. Et ceux qui allaient se faire baptiser, en fait, reconnaissaient qu'ils étaient des pécheurs. Et puis, c'est pour ça d'ailleurs que Jean a un problème quand Jésus arrive pour le baptiser. Il dit, mais je ne peux pas te baptiser, c'est toi qui devrais me baptiser. Toi, tu n'es pas pécheur et moi, je le suis. Hein. Et Jésus, dans son identification avec l'humanité, a voulu être baptisé par Jean. Mais ce baptême-là était encore autre chose. Alors, le baptême que nous pratiquons, nous les chrétiens, d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut dire, pourquoi on se fait baptiser? Ben, tout simplement, il vient de Jésus lui-même. C'est pas les apôtres qui l'ont inventé ou institué. Hein. Jésus l'a fait pratiquer par ses disciples. Bon, il y a un passage dans les évangiles qui nous dit que Jésus était au bord et qu'il baptisait, mais ailleurs il est dit, mais non pas, c'était pas lui qui baptisait, mais ses disciples. C'est un détail, c'est pas important. Hein. Mais par contre, c'est l'apôtre Paul qui va nous en révéler le sens profond. Hein. Jésus le pratiquait, et on peut imaginer, même si c'est pas expliqué dans les évangiles, qu'avant de baptiser les gens, il leur expliquait ce que ça voulait dire. Mais nous, on n'a pas cette explication dans les évangiles. Et donc, le premier texte qui va nous expliquer un petit peu le sens spirituel de ce symbole, on le trouve dans l'Épître aux Romains. Romains, chapitre 6, verset 3. L'apôtre Paul écrit et il dit ceci. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance, et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Or, celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir pour lui, sur lui. Il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, mais à présent, il est vivant, et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous donc comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu, dans l'union avec Jésus-Christ. Passage un peu long et un peu compliqué, mais on va le reprendre en détail ensemble. Je voudrais juste, avant qu'on développe ce sens profond du baptême, parler encore sur le côté pratique, hein. Et dénoncer peut-être quelques pratiques qui sont assez courantes et qui sont pas bibliques. Très souvent, on entend dire, ben, quelqu'un se convertit, il faut qu'il fasse ses preuves, et après on va le baptiser. Donc quelqu'un vient à la foi, on va l'observer pendant quelques, alors mois, semaines, années, ça dépend, hein. Et lorsqu'on estimera que c'est un bon chrétien, on pourra lui donner le baptême. Parce qu'on voudrait pas baptiser quelqu'un qui n'est pas digne d'être baptisé ou qui n'est pas assez bien. Non seulement c'est pas biblique, mais je dirais c'est même une grave erreur parce que ça va contre l'enseignement du salut et de la grâce. Comment se pratiquer le baptême dans le Nouveau Testament? Les gens entendaient le message de l'Évangile. Ceux qui l'acceptaient étaient baptisés dans le quart d'heure. On voit ça avec beaucoup d'exemples, par exemple, la première prédication de Pierre, hein. Pierre leur dit « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ceux qui acceptèrent sa parole ce jour-là furent baptisés, et le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est-à-dire que là, à l'improviste, ils ont fait 3000 baptêmes. Ils n'étaient que 12, ça en faisait pas mal pour chacun, si ils se laissaient partager encore, hein. Ils n'ont pas dit, bon alors, sur ces 3000 là, il y a sûrement un mouvement de foule, on va laisser décanter, attendre un an ou deux, on fera un questionnaire, ceux qui sont sérieux, ceux qui ne le sont pas. Non. Qui croit le message qui est annoncé? Moi? Ok, on va te baptiser. Hop, dans Jean-Lô, on ressort. Suivant. Hein. C'est pas un exemple unique. On voit l'histoire bien connue, Philippe qui est emporté par le Saint-Esprit, qui rencontre ce bonhomme sur son char, qui rentrait chez lui, un Éthiopien. Ils sont en train de voyager, Philippe lui explique le salut. Et pour les premiers chrétiens, lorsqu'ils expliquaient le salut, ils exposaient le baptême avec. C'était même pas, on t'explique le salut, et puis dans 2 ans, on t'expliquera le baptême. Ça faisait partie du tout. Hein. C'était parce que Jésus avait dit, allez, Matthieu 28, 19, faites de toutes les nations des disciples, et enseignez-leur, observez, hein, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc, c'était le seul commandement que Jésus avait laissé. C'était très simple, très clair, et ça s'enchaînait. Je vous lis là. Comme ils continuaient leur chemin, ça c'est Philippe et Éthiopien, ils rencontrèrent de l'eau. L'énuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. L'énuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'énuque descendirent tous deux dans l'eau, Philippe baptisa l'énuque. Et puis après ça, il est emporté par le Saint-Esprit ailleurs pour continuer son ministère. C'était fini pour ce passage-là. Hein. Et un dernier exemple que j'ai trouvé intéressant avec Paul, ça a toujours été un fou furieux celui-là, hein. Il ne pouvait rien faire dans la mesure. Quoi, hein. Donc vous savez comment il est arrêté par Jésus sur le chemin de Damas, il devient aveugle, il reste plusieurs jours sans manger, on doit le conduire, il n'y voit plus. Là, non. Imaginez ça quand même, vous êtes tombé de cheval, vous êtes devenu aveugle, vous avez passé 3 jours sans manger. Et là, il y a Ananias qui est envoyé pour lui parler. Hein. Je vous lis dans Actes 9, 17. Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül et lui dit, Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Vous imaginez un peu la situation. 3 jours qu'il n'a pas mangé, peut-être pas bu, hein, il est aveugle, etc. Tombé de cheval, ça fait quand même mal, tombe de cheval. Hein. On vient, il retrouve la vue. Ah, amenez-moi à manger, je vais dormir un peu. Enfin, baptisez-moi. Après, je vais manger. Donc, on pourrait multiplier. Il y a aussi l'exemple lorsque Paul est en prison pendant la nuit, hein, vous savez, et puis il y a un tremblement de terre. Le geôlier croit qu'il va être condamné à mort parce qu'il a laissé s'échapper les prisonniers. Paul dit, non, t'en fais pas, c'est ouvert, mais on n'est pas parti. Pas encore. Il lui annonce l'évangile, il se convertit. Et là, dans la nuit, imaginez, situation. Il est recherché par les autorités, c'est un fugitif, il vient de s'évader de prison. Il prend le temps de baptiser ces gens avant de partir. Donc, tout ça pour dire, on n'a pas encore vu le sens du baptême, mais c'est une chose qui se fait immédiatement après avoir compris le salut. Ça n'empêche pas de le faire plus tard si on ne l'a pas fait avant, hein. Mais bibliquement, il n'y a aucun élément, mais il n'y a rien, même pas qu'il laisserait supposer qu'il faut attendre que les gens soient mûrs, qu'ils aient démontré leur foi, qu'ils soient de vrais chrétiens. Tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu de tout ton cœur? Oui. Alors, où c'est qu'il y a de l'eau? Alors, on va te tremper dedans et tu vas en ressortir. Hein? Je ne vais pas aborder ce matin, juste le mentionner, la question... Est-ce qu'on fait un baptême avec un peu d'eau sur la tête ou est-ce qu'on se trempe dans l'eau? La question n'est pas passionnante, mais je dirais elle est ridicule dans le sens où le mot baptême veut dire être immergé. Donc comment on peut dire je vais être immergé dans l'eau avec quelques gouttes sur la tête? Ceci dit, dans des situations, puisque c'est un symbole, hein, quelqu'un qui est, ça m'est arrivé d'ailleurs, de voir une dame très âgée, 97 ans, qui est venue à la foi, qui disait « mais je veux être baptisé ». Puis le docteur dit, mais on peut pas vous transporter, vous tremper dans l'eau, ou c'est pas un état de le faire. Alors, symboliquement, on l'a baptisé avec une goutte d'eau. Il n'y a aucun problème, son baptême est valable. Donc c'est pas une question de superstition, hein. Mais, de façon générale, et quand l'état de santé le permet, puisque le mot baptisé veut dire être immergé dans, ça n'a pas de sens de le faire autrement, quoi. Sauf cas de force majeure. On peut imaginer là aussi, hein, des gens qui se convertissent en prison, qui peuvent pas sortir. On va leur couper la tête dans 2 jours, ils veulent se baptiser avant, ils le font avec 3 gouttes d'eau. Pourquoi pas, il n'y a pas de, c'est pas magique non plus, hein. Alors voilà. Donc ça, c'était sur la pratique. Ça suit immédiatement le salut. Et puis, une chose toute simple, hein, c'est que c'était un acte d'obéissance. Jésus a dit de le faire. J'ai pas tout compris. Tous ces gens qui se sont fait baptiser, là, les 3000, le nuque et tout. Ils n'avaient pas compris grand-chose. Hein. Jésus est le Fils de Dieu, il est mort pour moi, il est ressuscité, c'est tout. On les baptisait. Mais par contre, ils savaient une chose, Jésus a dit de le faire. Si je crois qu'il est le Fils de Dieu, la logique, c'est que j'obéisse à son premier commandement, qui était de me faire baptiser. Hein. Et bien sûr, la Bible est très claire, le baptême ne sauve pas. Alors qu'est-ce qui se passe si on baptise quelqu'un qui était hypocrite, qui avait dit qu'il était croyant et qu'il n'était pas croyant? Ben, il a pris un bain. Et alors? J'en prends tous les jours, non? Quand je vais à la piscine. Après, c'est son problème à lui, si la personne a menti consciemment, ça le regarde, s'il savait pas, s'il s'est trompé. Mais, il y a rien de magique derrière, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger que, oh, alors on l'a baptisé, il n'était pas vraiment. C'est exactement comme pour le repas du Seigneur, on explique que c'est pour les gens qui sont nés de nouveau, qui sont enfants de Dieu. Quelqu'un est là, et il prend quand même. Une fois qu'on l'a expliqué, maintenant si la personne le fait en voulant tromper, ça la regarde, c'est entre elle et Dieu, et puis Dieu est assez grand pour défendre ses intérêts, mais nous sommes pas appelés à être les gardiens de la sainteté de Dieu dans ce sens-là, il se débrouille très bien avec ses enfants. Donc le baptême, ça suit la foi normalement, on se convertit dans le quart d'heure qui suit, on se fait baptiser. Moi je suis venu à la foi et j'ai grandi pendant 10 ans dans une église qui vivait comme ça. On avait des conversions à peu près à toutes nos réunions. Et tout l'hiver, il y avait la baignoire. D'ailleurs, on arrivait pour la réunion, il y a quelqu'un qui allait remplir la baignoire, au cas où. Hein. Quelqu'un acceptait Christ pendant la réunion, on allait dans la salle de bain, on le baptisait, et puis il était baptisé. Puis tout l'été, bon, on allait à la mer 2 jours après, et puis on allait le baptiser parce qu'on habitait à côté.
Donc pour moi, c'était tellement simple et naturel que j'ai toujours eu du mal après à comprendre pourquoi on avait fait quelque chose de si compliqué. Donc ça, c'est dans la pratique. Maintenant, ce que l'apôtre Paul soulève et ce qu'on va voir ce matin et qui nous intéresse tous, qu'on soit déjà baptisé ou pas, c'est tout le sens symbolique et spirituel qu'il y a derrière, au-delà du fait que c'est un acte d'obéissance, et c'est important. Paul développe ici quelque chose qui est très très important parce que c'est essentiel pour nos vies chrétiennes. Donc je reprends un petit peu bout par bout ce passage de Romains 6. On trouve un passage parallèle dans Colossiens 2, pour ceux que ça intéresse, hein, de 12 à 17. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que comme Christ a été ressuscité entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Pourquoi l'évangile s'appelle, pourquoi on utilise le mot évangile qui veut dire bonne nouvelle? Où est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que les efforts de l'homme pour s'améliorer, qui étaient vains et qui ont traumatisé, on pourrait dire, le peuple d'Israël pendant plusieurs milliers d'années, on vient de leur annoncer qu'il existe autre chose. La loi, nous explique Paul, a été donnée pour montrer à l'être humain qu'il n'était pas capable de devenir meilleur, qu'il était incapable de s'améliorer. Sans la loi, c'est pas que l'homme était bon, mais il pouvait s'imaginer qu'il était bon. Avec la loi, il s'aperçoit qu'il n'est pas bon. Et lorsque Jésus vient, d'ailleurs, il en rajoute une couche. Pour ceux qui auraient imaginé, comme certains pharisiens, qu'ils pouvaient accomplir la loi, il pousse un peu plus loin, hein. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Moi, je vous dis, tu as une mauvaise pensée dans ta tête, tu as commis un adultère. Quel est le but de Jésus? C'est de bien montrer à chaque être humain que nous sommes tous condamnés et qu'aucun de nous ne va arriver à devenir meilleur. C'est pas possible. On peut devenir plus hypocrite, on peut faire moins de mauvaises choses, mais on va pas devenir meilleur parce que le péché dans sa nature est en nous. C'est un peu comme lorsque vous avez attrapé une maladie incurable, comme le sida par exemple, il peut se manifester rapidement ou pas, il peut très vite dégénérer ou pas. Malheureusement, en tout cas au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas le guérir. Vous l'avez, vous vivez avec. Le péché, c'est comme ça. Il va se manifester parce que j'en donne l'occasion, ou il va pas se manifester parce que par l'ascétisme ou par certaines pratiques, je diminue son champ d'action, mais il est en moi pareil. Et c'est la même chose. Et la seule chose qui peut nous délivrer du péché, c'est la mort, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Et ça, c'est annoncé dès la Genèse, hein. Si tu manges ce fruit, tu mourras. Et puis, ben, Paul le reprend, et Jésus l'a repris, hein. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous les pécheurs doivent mourir, c'est la conséquence. La bonne nouvelle, c'est que Christ est venu mourir à notre place, pour nous donner une vie nouvelle. C'est-à-dire qu'il prend sur lui notre culpabilité entière et il nous offre sa sainteté. Ça paraît incroyable, ça on a du mal à le comprendre, même à l'accepter expérimentalement. C'est une réalité, hein. C'est un état de fait. Christ est mort pour ça. Christ n'est pas venu sur terre juste pour nous montrer comment il fallait être gentil. Il est venu mourir et payer à notre place. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, c'est lorsque nous comprenons ce que Christ a fait, que nous l'acceptons, lorsque nous consentons, j'aime bien ce verbe pour nous, à ce qu'il a fait pour nous, et que nous le laissons nous mettre au bénéfice de ce qu'il a accompli, alors nous sommes associés à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Donc un enfant de Dieu, c'est un paradoxe, mais c'est toujours un être humain pécheur qui va continuer malheureusement de pécher, qui va pas beaucoup s'améliorer, peut-être dans certaines choses visibles un peu grosses, mais son cœur reste le même. Et en même temps, c'est quelqu'un que Dieu déclare saint, parfait, pur. Voilà. Je dirais, ce côté-là, il est juridique. Ça touche pas nos émotions, ça touche presque pas notre vie. C'est un petit peu comme si ce matin vous apprenez qu'on vous a donné la double nationalité, en plus d'être suisse, vous êtes aussi autre chose, hein, une autre nationalité. ben, ça change pas votre enfance, ça change pas où vous avez grandi, ça change pas le fait que vous aimez la fondue et que vous préférez le vin blanc et que vous aimez les montagnes et que, etc. Vous êtes toujours suisse, mais il se trouve que maintenant, vous avez aussi un passeport, on va dire espagnol, hein. Ok. Vous vous sentez pas espagnol peut-être, mais si vous allez en Espagne, vous avez tous les droits et les devoirs du citoyen, vous êtes espagnol. Peut-être vous allez jamais y aller, mais vous êtes espagnol, même si vous vivez en Suisse. C'est ce qui se passe, hein. Le jour où j'accepte Christ, Dieu me donne un nouveau passeport et me dit, voilà, je t'ai transporté du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de mon amour. Maintenant, tu es citoyen de mon royaume, avec tous les droits et tout ce que ça implique, avec la carte de crédit qui va avec, avec le parking pour se garer au ciel, avec ci, avec ça, voilà. C'est fait. Dans nos fichiers à nous, c'est un ordre. Et tu es déclaré pur, saint, juste et parfait. Bon. Ça, c'est ce que Dieu a déclaré et ce qui est réel. Après, moi, je vis toujours ici. Et puis, ben, en Espagne, il fait soleil, mais ici, il pleut, pas aujourd'hui. Hein, là-bas, il faut arroser les pelouses, mais ici, non, elles sont vertes toutes seules. Etc., etc. Là-bas, on mange de la paella, ici, on mange des rostis. C'est différent. Hein. Alors, je vais peut-être faire des voyages, apprendre à vivre, etc., peut-être un jour aller m'y installer. Mais le baptême nous rappelle cette vérité essentielle. Il n'y a pas d'issue pour le pécheur si ce n'est de mourir. Et puis, puisque dans l'identification avec la résurrection de Christ, et j'ai été déclaré saint et parfait, j'ai plus besoin de m'améliorer ou de devenir meilleur pour que Dieu m'aime ou m'accepte. Attention, il faut pas mélanger les sujets, hein. On parlera une autre fois de la sanctification. Dieu veut que nous changions sur terre, parce qu'il veut que cette vie qu'il nous a donnée se manifeste. Mais si on comprend mal les choses, on va passer notre vie à essayer de devenir meilleur pour que Dieu nous aime. On va passer notre vie à essayer de faire ce qu'il faut pour être acceptable, pour être un bon chrétien, pour être bien, pour être ci, pour être ça. C'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. D'ailleurs, il y a un verset sur le baptême qui a été souvent déjà pas très bien traduit. Le Semeur le traduit mieux et souvent mal compris. Et je vais vous le lire. C'est souvent celui qu'on cite en premier, hein, dans l'épître de Pierre, 1 Pierre 3, 21. Il dit ceci. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Enfin, ils viennent de parler de Noé, hein. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager, 3.21, oui, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. La façon dont c'est traduit dans certaines traductions plus anciennes, hein, il est parlé de l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Et c'est là-dessus que certains, en tournant un peu le texte, appuyaient pour dire, bon, tu t'es engagé à avoir une bonne conscience devant Dieu, alors on va voir, fais tes preuves. Montre-nous que tu as une bonne conscience devant Dieu pendant quelques années, puis si on est satisfait, je sais pas sur quel critère d'ailleurs, on va te baptiser. C'est faux, c'est pas biblique, et c'est pas ce que le texte dit. Ici, le baptême, qui ne consiste pas à laver les impuretés du corps ni de l'âme d'ailleurs, mais à s'engager avec Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Dans le baptême, simplement, je témoigne que j'ai été purifié par Christ et que je suis mort à mon ancienne vie. C'est tout. Je m'engage pas à plus faire le mal, à être... J'ai connu des gens qui voulaient pas se faire baptiser parce qu'ils me disaient, ouais, mais si je me fais baptiser, que demain je pêche. Ah, mais je peux t'assurer d'une chose, c'est que si tu t'es baptisé, demain tu vas encore pécher, après-demain aussi, après-après-demain. Le baptême, c'est pas un engagement à ne plus pécher. Si c'était possible, ça serait bien, hein. Le baptême, c'est d'abord un acte d'obéissance, comme on l'a dit, et puis c'est un témoignage public de l'œuvre de Christ. Voilà, Christ est mort, il est ressuscité, et moi, j'accepte d'être associé à cette œuvre. J'accepte ce que Christ a fait et j'en témoigne publiquement. Ce qu'il faut savoir aussi dans le contexte où j'ai lu, hein, le début de l'Église primitive et pendant les 3 premiers siècles, c'est que se faire baptiser équivalait signer son arrêt de mort. Donc c'était pas un truc qu'on faisait pour faire bien, avec une grande fête après, on recevait des cadeaux et tout, la famille faisait un grand repas. C'était au contraire. Les gens qui se faisaient baptiser affichaient publiquement devant les hommes, devant la société, et puis spirituellement devant Dieu, et puis aussi devant les anges, et puis aussi devant les démons et les diables, qu'ils acceptaient d'être au bénéfice de Christ. C'était un témoignage public. En tout cas, je dis, pendant les trois premiers siècles, c'était le début des ennuis. Ça voulait dire probablement perdre ses propriétés, très possiblement perdre sa réputation, et puis possiblement perdre sa vie aussi. En tout cas, pas avoir une vie plus facile, plus agréable, meilleure, comme souvent on veut le proposer dans notre christianisme de confort au XXe siècle, dans nos beaux pays tranquilles. Hein. Si vous avez toutes vos assurances, vous cotisez à tout ce qu'il faut, vous avez pris tous les compléments, vous pouvez en plus devenir chrétien et ça vous aidera à vous sentir mieux. C'est un bon complément pour l'âme. Hein. C'est pas du tout le message de l'évangile. Devenez disciples de Jésus-Christ et les problèmes que vous avez eus jusqu'à maintenant, ça va vous faire rigoler parce que ce que vous allez avoir va être autrement plus sérieux. C'est comme ça que ça se passait. On va vous critiquer, on va vous mettre de côté, on va vous considérer comme des fous, comme étant dans une secte. Vous aurez plus accès à certaines études, vous aurez plus accès à ci, à ça. Lisez Hébreux 11. Hein. Tous ceux qui erraient d'une caverne à l'autre, couverts des vins, sciés, coupés, brûlés dans les jardins de Néron pour éclairer ses fêtes, etc., etc. Aujourd'hui, le contexte est différent, mais c'est la même chose. C'est pour ça que, et là, c'est un peu une parenthèse, c'est pas une doctrine, c'est juste mon goût personnel. Hein. Et moi, j'aime quand on fait les baptêmes dans un lieu public. Moi, j'ai été baptisé à la plage un dimanche après-midi au Gros du Roi ou à la Grande Motte. La plage était pleine de touristes. D'un coup, il y a une bande de fous qui arrive, là, une trentaine de chrétiens, avec des guitares, commencent à jouer, à chanter, et puis on les baptise. Les gens s'attroupent. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est une nouvelle secte? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, pas du tout. Regardez, c'est écrit dans la Bible. Tous les chrétiens font ça depuis. Ah bon, hein. Et puis il se trouve que, parce que j'habitais là-bas, mais dans les gens qui étaient là, il y a des gens qui me connaissaient, qui vont le dire, qui vont le répéter. Je m'affiche. J'ai pas honte de Jésus-Christ qui a pas eu honte de venir mourir à ma place. Nous, on aime un baptistère dans un bâtiment caché, ou alors un petit endroit après qu'on nous voit pas, parce que on voudrait pas choquer, déranger, les gens ne comprennent pas. On peut le faire comme ça, c'est pas un problème, mais c'est pas vraiment le sens du baptême. C'était un témoignage public, je dis et j'affiche, c'est un peu comme si je sortais avec un truc sur la tête là, je suis disciple de Jésus-Christ depuis aujourd'hui. Et j'en ai pas honte, parce qu'il a pas eu honte de moi, et parce que c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse m'arriver. Le baptême, c'est ça. Et puis, tout ce qu'on est en train de voir là, et qu'on va encore voir un tout petit moment, honnêtement, moi quand j'ai été baptisé, je sais pas pour vous, mais j'avais pas compris toutes ces choses-là. Hein. Je me suis converti, je savais qu'un temps de convertition, on se faisait baptiser, alors j'ai dit, je veux me faire baptiser, je me suis baptisé. C'est des années après, en étudiant la Bible plus profondément, que, ah oui, d'accord, c'était l'identification à la vie, la mort, la résurrection, la nouvelle. Et puis, c'est bien, et je continue de le découvrir. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était, voilà, hein, j'ai accepté Christ, je veux que les gens le sachent, je veux qu'on sache que je suis un témoin de Jésus-Christ. Et puis, j'avais compris l'essentiel, hein, ouais. Je meurs avec lui et je me suicide. Mais c'est pas magique, l'eau, elle est ce qu'elle est, vous pouvez vous y baigner derrière, il n'y a pas plus de péché dans l'eau qu'avant, etc., etc. Ouais. C'est tout simple. Mais ce sur quoi je veux revenir ce matin, c'est ce côté-là, hein, mort et résurrection avec Christ. Nous passons tellement de temps à essayer d'améliorer nos vieilles vies. Ça en est épuisant. C'est fatigant. Et pour résultat, soit on est découragé, on arrête parce que on est honnête, on n'y arrive pas. Et si on y arrive, on devient un bon hypocrite. On a le choix entre ces deux options, c'est tout. Il n'y en a pas de troisième, hein. Quand je veux améliorer ma vie. Parce que soit j'y arrive pas, et puis au bout d'un moment, je dis, zut, hein. Ça fait 30 ans que j'essaye, ou 10 ans, ou 5 ans, il y en a marre de faire semblant. Si les autres sont des hypocrites, tant pis, moi je peux pas, je m'en vais. je crois toujours en Dieu, mais j'arrête tout. Ou alors, parce que j'ai une forte volonté, je suis discipliné, j'ai un caractère de fer, j'y arrive. Ah, avant, je fumais, maintenant, je fume plus. Ah, je buvais beaucoup, je bois plus. Ah, je regarde de la pornographie, j'en regarde plus. C'est bien de faire ces choses-là, hein. Ça vous rend pas meilleur. Ces choses-là détruisent vos vies, elles sont mauvaises. Si vous pouvez les laisser, laissez-les. Ça vous rend pas meilleur. Dieu vous aime pas plus, pas moins. Ça change rien. Et puis, si on y arrive dans les domaines visibles, parce que vous avez la chance d'avoir eu le caractère, l'éducation, la vie qui fait que vos péchés se voient pas beaucoup, ils sont culturellement acceptables, alors vous regardez les autres, eh ben quand même, hein. Oh, oh là là, hein. Et on est devenus des vrais hypocrites qui jugeons les autres, et c'est pas ce que Dieu veut. Je sais, moi, ça m'a toujours frappé parce que j'ai entendu cet enseignement très jeune parce que je me suis converti à une époque où tous les gens qui se convertissaient semaine après semaine, comme je vous disais, c'est des gens qui venaient de la drogue, de la prostitution, de l'alcool, etc. Et la personne qui encadrait ces jeunes et qui s'en occupait, c'était mon père, qui aurait pu être suisse-allemand de la vallée, vous voyez? Enfin, pas de la vallée, mais suisse-allemand. Hein. Il n'avait jamais volé un centime de sa vie, ses cheveux touchaient pas les oreilles, il n'avait jamais fumé, jamais bu, pas de télé, pas de radio, pas de cinéma, etc. Sans être chrétien, je veux dire, hein. Il était comme ça, quoi. Donc, il disait, moi, quand je retombe dans le péché, qu'est-ce que je fais? Je m'en moque des gens, je reste chez moi et j'ouvre mon journal et je vis égoïstement. Personne ne le voit, personne ne le sait, tout le monde peut dire c'est un bon chrétien. Et je vis dans le péché, parce que mon péché à moi, c'était de penser qu'à moi d'être égoïste. Alors c'est sûr que les gens qui sont là, le jour où ils retombent et qu'ils arrivent sous à la réunion, on se dit, quelle horreur! Moi j'arrive, ça fait une semaine que je pense pas à Dieu et que je vis que pour moi. On dit, ah, quel bon chrétien! C'est la même chose. Un est plus dangereux que l'autre pour notre corps, mais c'est la même chose spirituellement. Mais dans le baptême, déjà, on annonce tout le programme de la vie chrétienne. Mort avec Christ, ressuscité avec lui. Ma justice, c'est la sienne. Et c'est pour ça que Paul, longtemps après, va dire, je me juge pas moi-même. Je sais pas, je fais ce que je pense être bien sûr, mais je peux me tromper. Mais je m'en moque, ce que vous pensez de moi, je m'en moque, ce que les gens pensent de moi, je m'en moque, et ce que je pense de moi, je m'en moque aussi, parce que ce qui fait que je suis déclaré juste, c'est l'œuvre de Christ. Et c'est ça que j'annonce, et je m'accroche à ça. Et cette chose-là, cette réalité, c'est pas une chose spirituelle, si elle est effectivement en nous, elle nous laissera pas sans rien faire. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique quand il dit, mais j'ai agi plus que tous. Mais pas moi, la grâce de Dieu qui est en moi. C'est cette compréhension du fait que je suis ressuscité avec Christ, assis avec lui dans les lieux célestes, déclaré pur, parfait, qui fait que maintenant, je passe plus ma vie chrétienne à essayer de m'améliorer. Je passe ma vie chrétienne à essayer de faire ce que Dieu me demande de faire, en étant toujours un pécheur, mais tant pis. Si j'attendais d'être pur, saint et sans péché pour venir prêcher ici, mais je ne viendrai jamais. Vous ne m'auriez pas entendu une seule fois. Et vous ne m'entendrez plus jamais. Mais je mets plus mon énergie là-dedans. Je mets mon énergie à écouter Dieu, trouver ce qu'il veut. Et puis, ben, je suis un pécheur. Puis il y a des choses, ben, c'est toujours là. Et puis, ça me chagrine, ça me désole, ça m'attriste, ça me fatigue, ça me pourrit la vie. Excusez-moi l'expression. C'est comme ça. Quand je vois ce péché, ben, je le confesse à Dieu. Hein, Jean 9, il me pardonne, il me purifie. C'est instantané. Et je me relève et je repars. Mais le travail d'essayer de s'améliorer, ben, c'est épuisant. Puis ça fait de nous des gens tellement désagréables, aigris, amers. Hein. Et tout ce genre de réflexion. Et tout ce que j'ai fait pour Dieu, voilà ce que j'ai. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Tu n'as rien fait pour Dieu. Dieu ne te demande rien. Si tu veux rien faire, ne fais rien. Il t'aimera autant. Si tu fais quelque chose, tu le fais parce que tu veux le faire, parce qu'il t'aime et tu as, c'est le meilleur, je veux le faire, j'obéis. Mais je ne le fais pas pour m'améliorer. Et tout ça, c'est déjà annoncé dans ce baptême, associé avec lui dans sa mort, associé avec lui dans sa résurrection. Et en même temps, il y a ce côté témoignage public. Et tourner vers les autres. Et je crois que c'est une des choses qui font que nos vies chrétiennes sont tellement compliquées au lieu d'être simples, c'est qu'on a l'impression que j'ai été sauvé pour moi, puisque je suis la personne la plus importante de l'univers, et que Dieu m'a sauvé pour que je me sente mieux, alors je m'occupe de moi. Et là, quand je commence à m'occuper de moi, c'est catastrophique. Ça tourne en rond. Parce que soit je m'occupe de moi en devenant égoïste, et rapidement, le fruit de l'égoïsme, c'est la misère, intérieure en tout cas. Soit je me démène pour m'améliorer, je m'occupe de moi aussi, à vouloir m'améliorer, et c'est catastrophique aussi. Parce que je deviens un bon hypocrite religieux qui juge les autres, et les jours où j'y arrive pas, je suis abattu. Dieu m'a sauvé pour que je vive pour lui. Je vis plus pour moi. L'amour de Christ nous étreint, nous tous qui avons compris ceci. De Corinthiens 5. Christ est mort pour tous, et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et c'est pourquoi nous avons reçu le ministère de la réconciliation, et nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est notre ministère, à tous. Lorsque je suis engagé sur ce chemin-là, la question, je ne me pose même plus les questions, je me sens bien, je me sens pas bien, j'étais un bon chrétien, pas assez un bon chrétien. Quand j'appuie là, ça me fait un peu quelque chose, mais quand j'appuie là, ça me fait autre chose. Si j'essayais ce vin, non. Il n'y a pas d'issue de ce côté-là. Il nous a racheté pour que nous vivions pour lui. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi aujourd'hui? Et je vais m'apercevoir quand je vis au jour comme ça, qu'à la fin de ma journée, à la fin de ma semaine, à la fin du mois, à la fin de ma vie, j'espère, je me dis, incroyable, j'ai bien vécu. J'ai peut-être pas fait tout ce que je voulais, j'ai pas eu tout ce que je pensais devoir faire, ça s'est pas passé comme j'avais imaginé, mais j'ai bien vécu. Parce que j'ai vécu pour lui. C'est pas un sacrifice de vivre pour Christ, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Nous avons tous cette impression que le bonheur, c'est la liberté, et la liberté, c'est pouvoir faire ce que je veux. Le problème, c'est que, Paul l'explique en détail là, je suis vendu au péché, je suis esclave du péché. Quand je fais ce que je veux, je fais ce qui est mauvais pour moi. Mais regardez le monde dans lequel on vit, hein. Laissez un jardin faire ce qu'il veut. Qu'est-ce qui se passe dans votre jardin? Vous le mettez impeccable, hein, il n'y a pas une mauvaise herbe, tout est droit, tout est carré, etc. Laissez votre jardin faire ce qu'il veut, partez en vacances, vous revenez, c'est la jungle. Laissez un enfant faire ce qu'il veut. Vous voyez ce que ça fait? C'est terrible, hein? Laissez un peuple faire ce qu'il veut. Laissez l'être humain faire ce qu'il veut, il se détruit, il ne sait pas faire autre chose. Et c'est pour ça que d'une certaine façon, les gens qui se battent pour survivre, je parle pour manger, pour avoir un abri, etc., vivent mieux que les autres. C'est dur à dire, hein, mais c'est comme ça. Parce que, ben, ils se battent pour l'essentiel, quoi. Mais dès que je suis libre de faire ce que je veux, ce à quoi nos sociétés tendent, je me détruis. La solution, mourir. Effectivement, quand on meurt, on n'a plus de problème. Mais comme je suis vivant sur Terre et que j'ai pas envie de mourir, hein, bientôt, on sera là-haut, mais bientôt, plus tard possible. En attendant, la seule solution que j'ai, c'est de choisir de mourir pour ressusciter et d'offrir, c'est pas une liberté, j'en ai pas de liberté, hein, mais de m'offrir à Jésus-Christ. Parce que de toute façon, ou je suis esclave du péché, ou je suis esclave, entre guillemets, esclave, par choix de Jésus-Christ et de sa volonté. Et c'est pour ça que on perd tellement de temps, j'attends de le sentir, c'est. Pourquoi vous participez pas à la vie de l'église? Je le sens pas. Je le sens pas. J'avais un ami qui disait toujours, quand tu te sens pas bien, fais-toi sentir par quelqu'un d'autre. Mais, où il est dit dans, trouvez-moi un verset qui dit, faites la volonté de Dieu quand vous le sentez. Il n'y a pas un verset qui dit ça. Alors maintenant, qu'on n'arrive pas à le faire, ben ça m'arrive tous les jours. Et je crie à Dieu, Seigneur, je connais ta volonté, j'y arrive pas, aide-moi, j'en ai marre d'échouer. Et puis Dieu dit, ben tiens, au moins les 5 minutes que tu as passées à me dire que tu en as marre, on les a passées ensemble. C'est mieux que d'habitude. Hein? Ah, ouais, c'est ça que tu veux. Ok, bon, on continue. Mais on n'a pas le choix. Donc le baptême, mort, ressuscité avec lui, témoignage public. Et puis, comme on a vu la semaine dernière avec le psaume 73, quand je convoitais les méchants qui s'enrichissent, etc., j'étais comme un animal sans raison. Et mes yeux se sont ouverts, et tout d'un coup, j'ai compris. Ah, tu m'as saisi par la main droite, tu me conduis par ton conseil, et tu me recevras dans la gloire. C'est la vie pour nous. Ça va mieux. Alors, si vous êtes déjà baptisé ce matin, ben, pensez-y. Vous avez pris cet engagement. Vous avez signé. Non, ouais. Donc, vous êtes mort et ressuscité avec lui. Si vous n'êtes pas baptisé ce matin et que vous n'êtes pas encore un croyant, acceptez Christ. Mais si vous avez accepté Christ et que vous n'êtes pas baptisé ce matin, faites-vous baptiser. Il y a de l'eau quelque part. Non, le verre est trop petit, mais on va remplir un conteneur, on va trouver quelque chose. On le fait cet après-midi. Alors non, on le fait le 16 septembre. On a déjà un ou deux candidats. Peut-être la date peut changer, parce qu'on m'a dit qu'il y aurait quelqu'un qui serait intéressé, qui serait pas libre. En tout cas, on va le faire en septembre. Je sais pas où, comment, ça, on vous dira ça dimanche prochain. On se voit avec les anciens demain soir. Mais on va faire des baptêmes et on va témoigner de ça et on va se réjouir en ça. Alors Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour nous, pour cette mort et cette résurrection, pour cette vie nouvelle que tu nous offres. Aide-nous à sortir de ce piège d'essayer de nous améliorer. Nous sommes mauvais, pourris, corrompus jusqu'au bout. Mais tu nous as donné une nouvelle vie, une nouvelle identité en toi, une nouvelle nature. Et nous voulons vivre de cette vie et nous voulons simplement trouver ta volonté et te demander la force d'y marcher, Seigneur. Merci parce que ton amour qui nous étreint est la seule force qui puisse nous faire aller de l'avant. Merci de nous relever quand nous sommes découragés, fatigués, épuisés, d'ouvrir nos yeux quand nous ne voyons plus et de nous permettre de continuer parce que tu nous as saisis par la main droite et tu nous conduiras jusqu'au bout, Seigneur. Merci de tout cœur.